Nous avons rencontré Sandrine Mounier qui travaille en tant qu'agente en immigration économique au Conseil du développement économique de la Nouvelle-Écosse, aussi abrégé CDNE. Nous avons discuté avec elle de la recherche d'emploi pour les nouveaux immigrants francophones en Nouvelle-Écosse, particulièrement à Halifax, et elle a même donné à la fin quelques conseils pour mieux réussir ses entretiens. Vous retrouverez également les informations pour vous inscrire à une conférence qui aura lieu le 14 décembre 2022 de 17h à 19h organisée par le CDNE sur le marketing de soi en ligne. Voici notre entrevue avec Sandrine. Ok, alors est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît?
Donc, je suis Sandrine Mounier, agente en immigration économique au CDNE. J'ai ce poste depuis un an maintenant. Et donc, je gère le projet en immigration francophone du Conseil de développement économique de la Nouvelle-Écosse, qui en fait aide qui soutient les nouveaux arrivants francophones en Nouvelle-Écosse dans leur recherche d'emploi.
Ok, alors justement, du coup, aujourd'hui, on va parler de la recherche d'emploi pour ces nouveaux immigrants francophones. Alors, est-ce que tu peux me dire, est-ce que c'est facile pour un nouvel immigrant francophone ici de trouver du travail?
C'est une réponse complexe. C'est ni facile ni difficile, en fait, parce qu'il y a quand même un besoin en main-d'œuvre. Ça, c'est sûr qu'on pourrait penser que c'est une facilité, en fait, que ça pourrait être une facilité pour les nouveaux arrivants de trouver un emploi. Mais il y a certaines difficultés, en fait, que l'on rencontre et que l'on voit dans les personnes que l'on suit, parce que notamment la moitié des nouveaux arrivants qui viennent vers nous, qui font appel à nos services, sont issus de professions réglementées en Nouvelle-Écosse. Donc, en fait, ça, comme il y a des longs processus de reconnaissance des diplômes, c'est long, c'est coûteux. En fait, ça, donc, c'est un obstacle pour leur insertion professionnelle parce qu'ils ne peuvent pas tout de suite exercer leur profession d'origine. Et donc, il faut qu'ils réfléchissent à des alternatives, trouver des alternatives d'emploi, souvent qui ne sont pas à la hauteur de leur qualification, en fait. Mais après, il peut y avoir des solutions à ça, notamment dans la transférabilité des compétences. Mais n'empêche que la difficulté, c'est qu'il y a beaucoup de nouveaux arrivants qui ont cette impression de devoir recommencer à zéro quand ils arrivent en Nouvelle-Écosse et notamment à Halifax. Une chose importante à dire, c'est qu'ils arrivent essentiellement à Halifax au début. Et donc, ils ont cette sensation qu'il faut vraiment qu'ils recommencent à zéro et que le job de survie est inévitable. Et donc, en fait, parfois, ils arrivent avec justement ces croyances limitantes qui fait que ça fait aussi un obstacle supplémentaire à leur recherche d'emploi. Donc, en fait, c'est bien sûr qu'en général, on voit qu'ils s'insèrent assez rapidement quand même dans l'emploi, mais ils ont quand même certains obstacles pour trouver, en fait, un emploi à la hauteur de leurs qualifications et de ce qu'ils aimeraient faire surtout.
D'accord. Est-ce que tu peux me dire justement quel genre de qualification est difficilement reconnaissable ici à Halifax?
Oh, bah, en premier lieu, bien sûr, il y a tout ce qui est profession de la santé. Là, c'est très, très long, c'est très complexe. Tout ce qui est soins, enfin, infirmiers, on a des médecins aussi qui viennent vers nous et qui ont de très longues années d'expérience, mais qui ne peuvent pas, ils ne peuvent pas pratiquer ici. Et ce qui est aussi complexe, c'est que comme ils sont francophones de langue, on va dire leur langue officielle préférée au Canada, ça rajoute aussi un obstacle dans le sens où souvent les processus pour avoir accès à ces professions réglementées à terme sont essentiellement en anglais. Et eux, ils ont, même si ils ont déjà des compétences en anglais, des fois, ils n'ont pas des compétences suffisamment fortes, surtout en test très réglementaire, là. Donc, ça rajoute une complexité pour pouvoir avoir accès à cette profession. Donc, c'est ça, toutes les professions de santé. Il y a aussi, on a beaucoup de nouveaux arrivants qui sont issus des professions de la construction, donc type ingénieur civil, architecte, toutes ces professions. On a beaucoup de personnes qui viennent avec ces profils-là, en fait, et
D'accord.
qui ont des complexités pour faire reconnaître leurs compétences.
D'accord. Et dans ces cas-là, le processus du coup pour faire reconnaître est possible? Ça prend combien de temps?
Oh, c'est variable, en fait, c'est possible, en fait, mais souvent, ça dépendra en fait, l'organisation qui s'occupe justement des professions réglementées. En fait, les ordres professionnels ont chacune leur propre processus, en fait. Donc, dépendamment si on est ingénieur, médecin ou une autre profession, en fait, il n'y a pas de... C'est jamais la même chose. Mais souvent, la première chose à faire de toute façon, c'est de déposer un dossier avec tout l'historique des diplômes, tout l'historique de la pratique. Et en fait, justement, ces ordres, ces organisations vont en fait regarder le dossier. Et ça peut être très variable. Mais ça peut être 1 an ou voire plus. En fait, et après, selon ce qu'ils ont vu dans le dossier, ça, après, ils vont faire comme dépendamment de chaque cas, en fait. Il y a certaines personnes qui vont devoir passer des examens, qui vont peut-être devoir repasser des cours. Donc, en fait, il n'y a pas de réponse facile, en fait, parce que justement, ça dépend de chaque profession et c'est aussi au cas par cas, selon les personnes.
D'accord, ok, c'était intéressant. Alors, du coup, tu avais un peu commencé de parler de ça, mais est-ce que tu penses que c'est obligatoire pour trouver un emploi dans une entreprise anglophone de passer un test de type TOEFL, ce genre de choses?
Non, pour retrouver un emploi, c'est pas la peine de passer un test. Tout ce qui est test, c'est d'un point de vue très réglementaire qu'il est obligatoire de les passer, par exemple pour se faire reconnaître certaines compétences d'un point de vue pour si on doit avoir si on doit passer des tests avec des institutions, par exemple, ou avec pour se faire reconnaître un diplôme, pour ce genre de choses-là, mais pour avec les entreprises en tant que telles, pour trouver un emploi, ce n'est pas la peine, non, souvent d'avoir un test. D'ailleurs, les employeurs, souvent, n'ont pas non plus la connaissance des niveaux de tests, qu'est-ce que ça veut vraiment dire. Donc, de toute façon, ce n'est pas avec eux qu'il faut passer des tests. Mais par contre, très souvent, l'employeur voit très vite si la personne est à l'aise en anglais ou pas lors des entrevues. Et c'est là où, oui, ça peut être un certain obstacle parce que, en fait, même si tous les nouveaux arrivants, pratiquement tous les nouveaux arrivants qui font appel à nos services, ils disent avoir soit des compétences avancées ou intermédiaires en anglais, justement selon le test qu'ils ont dû faire pour pouvoir immigrer ici. Mais finalement, ça, c'est juste un test. Qui est utile pour le ministère de l'Immigration, en fait, et après, ils ne l'utilisent pas pour chercher un emploi. Mais ça, c'est d'un point de vue très académique, même si d'un point de vue académique, il est écrit sur leur test comme qu'ils ont un niveau intermédiaire ou avancé, c'est pas pour cela qu'ils ont comme de la facilité quand même pour parler et pour exercer tous les jours. Et surtout pour trouver un emploi, en fait, parce que si les exigences de l'employeur sont très, très, très hautes pour pouvoir pratiquer l'anglais, pour pouvoir avoir un anglais très, très, comme d'un point de vue presque bilingue, là, enfin, en tout cas, qu'on puisse avoir aucune difficulté, là, si le niveau demandé est exigeant, ça peut faire une contrainte, même si on sait tous que de toute façon, les nouveaux arrivants peuvent apprendre l'anglais très très vite dans la vie de tous les jours, en fait vraiment. Et puis il suffit qu'on leur donne un emploi en anglais et puis ils vont s'y mettre très très vite. Mais si à l'entrevue, l'employeur a un niveau d'exigence très haut en anglais, surtout aussi au point de vue de l'accent, de la rapidité de parole, là ça peut être un obstacle.
Ok, du coup, moi, ma prochaine question, c'est est-ce que tu penses pas que si tu postules dans une entreprise anglophone, que face aux candidats qui sont anglophones, du coup, en langue maternelle, un francophone aura de toute façon moins de chance?
Ben en fait, ça dépend. Je dirais pas que je veux pas vraiment dire quand même qu'ils ont moins de chance. C'est juste que si à égale compétence des deux candidats, si un des candidats anglophones qui va postuler à cet emploi et qui va passer l'entrevue, ben c'est sûr que ça reste un avantage pour le candidat anglophone vraiment à égale compétence parce que aussi, il va être plus à l'aise en anglais. Et donc, il va être plus à l'aise aussi pour pouvoir aller à l'entrevue. Et tout ça va se sentir durant l'entrevue. Et donc, c'est quand même un avantage, on va dire, oui, pour le candidat anglophone. Mais après, ça n'empêche pas quand même aux candidats francophones de pouvoir quand même avoir accès à l'emploi si justement il faut qu'il ait quelque chose de plus en fait. Mais ça, ce sera plus au niveau des soft skills, comme en français, c'est les compétences douces. Si on peut faire mettre de l'avant qu'on a certains soft skills qui peuvent être un avantage en fait pour ce poste, comme par exemple le fait que on est très volontaire justement pour apprendre ou qu'on a certaines qualités, je sais pas moi, d'organisation ou qu'on aime les challenges, par exemple ce genre de choses, en fait ça peut faire la différence par rapport à un anglophone. Mais après, tout ça, c'est toujours une question de pouvoir et de savoir mettre de l'avant nos compétences, en fait. Et c'est une question purement de présentation et aussi d'être à l'aise et d'être capable et de savoir parler de ses compétences et de ne pas avoir peur d'en parler, parce que ça aussi, c'est une petite chose que je pourrais ajouter, c'est que très souvent, on a remarqué que les nouveaux arrivants qui font appel à nos services, ils ont en fait cette petite difficulté à parler d'eux, à se mettre de l'avant, à être fiers de. Et pourtant, ils ont de quoi avoir fier. Et ils ont de quoi vraiment être fiers de leurs compétences, de tout ce qu'ils ont fait pour arriver là, et puis de leur expérience passée en fait, mais ils ont du mal à savoir, à parler d'eux en fait, ne serait-ce que dire j'ai fait ça et j'ai fait ça et j'ai fait ça en entrevue. Des fois, ça peut être déjà rien que ça peut être une complexité parce que ils ont appris à parler en termes de mon équipe, mon agence, où j'étais avant, on faisait ça, mais pas moi, je. Et rien que ça, en fait, c'est une petite technique des fois qu'il faut leur montrer qu'il ne faut pas qu'ils hésitent à se mettre de l'avant Et donc tout ça, c'est une question vraiment de présentation et de confiance en soi.
Donc, tu penses que c'est quelque chose de typiquement francophone de ne pas vraiment se mettre en avant?
Non, je dirais pas que c'est francophone, mais il y a quand même quelque chose de culturel là-dedans parce que, en fait, je pourrais parler d'un point de vue plus la grosse majorité des personnes qu'on suit, en tout cas récemment, ils viennent des pays orientaux, Moyen-Oriental, Maghreb, Nord-Afrique, en fait. Et c'est vrai que ils nous le disent eux-mêmes. Il n'y a pas très longtemps, on a fait une formation justement pour le réseautage, une formation pour le réseautage par le théâtre appliqué. Et justement, ils nous disaient qu'ils ont du mal à parler de eux. Ils disent nous, quand on leur demande, par exemple, surtout s'il y a des questions qui sont très... qui sont très précises. Par exemple, des fois, il y a des questions en entrevue qui sont du type dans telle situation, qu'est-ce que vous avez fait? Ces questions-là, normalement, nécessitent vraiment des réponses très précises sur qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce que les actions qu'on a fait concrètement en tant que personne. Et en fait, ben là, très souvent, ils répondent un peu trop généralement à la question. Et en mettant plus leur équipe en avant ou leur entreprise en avant. Et ça a un côté aussi culturel parce que dans la culture, en tout cas nord-africaine, très souvent, on n'est pas éduqué à vraiment se mettre de l'avant en tant que personne, mais en tant que groupe. Et ça peut être aussi, ça peut paraître, ça peut mal paraître justement de parler de soi trop, parce que justement, ça, c'est se mettre trop en avant, c'est comme vouloir paraître mieux que les autres. Donc, je pense que c'est une petite différence culturelle. Qui est purement, enfin, quand on arrive au Canada, il faut s'adapter à cette différence culturelle.
D'accord, c'est super intéressant. Est-ce que tu aurais d'autres conseils pour les chercheurs d'emploi? De fautes que tu... Enfin, de fautes. Peut-être de choses qu'ils font régulièrement, qui peuvent être facilement corrigeables.
Ben, il y a ça, mais en lien aussi, il y a le fait de ne le c'est pas du tout une faute là. C'est plutôt une question d'adaptation. C'est aussi ne pas ne je pense que la chose à ne pas faire, c'est rester dans l'idée limitante, justement, comme quoi on est obligé de passer par un emploi de survie et qu'on est obligé de cacher ses compétences. Il y a certains, des fois, certaines personnes qui nous disent: Ah, mais en fait, moi, j'ai peur que si je postule à cet emploi-là, on me dise que je suis surqualifiée. Alors, soit ils n'appliquent pas, ou soit, des fois, ils veulent carrément effacer leur diplôme, par exemple, de leur CV. Et ça, en fait, c'est une idée vraiment qui les limite et qui va les il va fait, ça va faire qu'ils vont perdre confiance en eux. Et puis forcément, ils vont pas trouver un emploi qui va être à la hauteur de leurs compétences et de leur espérance aussi. Et tout ça, en fait, je pense que c'est un peu c'est pas une erreur, mais il faut essayer de sortir un peu de cette idée qui nous on se limite nous-mêmes en fait à se dire ah oh ben je vais postuler pour être par exemple caissier ou autre chose là qui est très bas et résultat il y en a quelques-uns qui vont postuler qu'à ce genre d'emploi là et qui vont même plus avoir d'énergie après pour postuler sur d'autres emplois qui pourraient être à leur hauteur. Et ça, je pense que c'est limitant, en fait. Des fois, il vaut mieux postuler moins, mais intelligemment, plutôt que postuler à 10 emplois dans la journée, mais qu'à des petits emplois comme ça, qu'on sait que de toute façon, ça fonctionnera pas parce que ça, c'est pas ce qu'on recherche. Et puis eux-mêmes, après, ils sont frustrés. Et puis, c'est un peu comme si c'est ça, ils se limitent. Et puis, ça peut contribuer à une certaine dépression à un moment donné de se dire, je vais pas y arriver, je vais pas trouver un emploi. Parce que justement, on se limite en fait dans cette recherche d'emploi. Mais tout ça, c'est des choses qui peuvent justement se corriger en essayant de se mettre de l'avant et de gagner confiance en soi. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on essaye vraiment de miser sur ça, en fait, dans nos services en employabilité des immigrants francophones au CDNE. On essaye vraiment d'établir un sens de l'empouvoirement, pour pas faire d'anglicisme en fait, mais qu'il faut qu'ils prennent pouvoir sur leur propre recherche d'emploi pour trouver quelque chose qui leur convient en fait, pas un travail qui soit dévalorisant en fait et qui les enfoncent dans leur dépression plutôt que les valoriser, en fait.
D'accord, ok. Alors, on va passer maintenant à l'événement du 14 décembre dont tu m'avais parlé. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est?
Oui, ben justement, là, c'est vraiment, ça fait une bonne transition avec tout ce qu'on a parlé parce que l'événement du 14 décembre qui s'en vient, en fait, qui se passe, qui se nomme en fait passer de chercheur d'emploi à profil recherché en fait, c'est vraiment dans cet axe, on a voulu faire cette activité vraiment dans le but justement de l'empouvoirment des nouveaux arrivants pour qu'ils mettent de l'avant leurs compétences. Donc en fait, cette conférence qui se passera donc le mercredi 14 décembre de 17h à 19h heure de l'Atlantique en ligne. Cette conférence est animée par Amokran Marish, qui est un consultant formateur en marketing de soi et en image de marque. Et donc, l'objectif de cette première conférence est justement de démystifier tout ce concept de l'image de soi et de l'identité professionnelle numérique, notamment, en fait, pour savoir comment se mettre de l'avant et comment valoriser son profil. Parce que, comme j'ai dit avant, les nouveaux arrivants ont souvent des très très beaux profils, ils ont ils ont une excellente expérience, mais c'est juste qu'ils ont besoin de techniques pour savoir comment mettre de l'avant cette expérience et comment savoir s'en servir en fait. Et donc, cette conférence sera une conférence introductive à une formation plus complète qui se donnera au mois de janvier sur justement comment pour pouvoir ce sera cette formation sera donnera vraiment plein de techniques pour savoir comment se mettre de l'avant en ligne et hors ligne, mais notamment en ligne sur, par exemple, LinkedIn, par la vidéo professionnelle. À la toute fin de la formation, on fera des vidéos professionnelles pour un certain nombre de candidats, en fait, un certain nombre de participants à cette formation, ils auront droit à la fin à se faire une petite vidéo, d'un pitch professionnel pour pouvoir l'utiliser et le mettre de l'avant et le mettre sur les réseaux sociaux pour peut-être un peu donner quelque chose de supplémentaire à leur CV, en fait, parce que aujourd'hui, on voit que peut-être le CV pourrait, en fait, en complément du CV, on peut faire des vidéos comme ça, des pitchs professionnels pour se présenter. Et souvent pour présenter aussi ses soft skills, ses compétences douces. Et ça, en fait, ça apporte quelque chose de différent et de supplémentaire à un CV. Et en fait, donc, cette formation avec cette conférence introductive le 14 décembre aura pour but, ce but-là, de vraiment apprendre à savoir se mettre de l'avant en ligne pour pouvoir avoir quelque chose de supplémentaire juste pour catcher l'attention d'un employeur. Et des fois, et justement, c'est pour ça qu'on l'a intitulé passer de chercheur d'emploi à profil recherché, parce que finalement, grâce à cet outil-là, ce n'est plus on n'est plus un chercheur d'emploi, mais ça va être le recruteur qui va faire appel à nous. Et on va devenir un profil recherché, c'est-à-dire que maintenant, ce n'est plus nous qui allons envoyer des CV, mais c'est le contraire, c'est les employeurs qui vont nous contacter.
D'accord. Alors, comment est-ce qu'on peut s'inscrire pour cette conférence?
En fait, il est possible de s'inscrire donc en ligne. Il y a un lien la page Facebook du Conseil de développement économique de la Nouvelle-Écosse. Ça va rediriger donc sur une page d'inscription, sur un formulaire d'inscription où on va pouvoir justement dire son intérêt pour pouvoir participer d'abord à cette formation. Et en fait, à cette conférence introductive, donc là, l'inscription est automatique. Tous les inscrits recevront un lien Zoom pour pouvoir participer à cette conférence introductive. Et ensuite, par contre, pour la formation en tant que telle, là, ce sera suite à la conférence introductive, il faudra candidater en fait à la formation, parce que la formation, on ne pourra pas le faire pour autant de personnes que la conférence introductive. Donc, pour la formation en tant que telle, il va falloir vraiment faire une candidature parce que le nombre de places est limité en fait. Donc, ça, ce sera une deuxième étape, mais en premier lieu, le moyen de s'inscrire pour la conférence introductive, c'est ça, c'est d'aller soit sur la page Facebook du CDNE, il va y avoir une vidéo, on peut passer la vidéo, il y a le lien pour s'inscrire et puis aussi c'est ça, sur nos réseaux sociaux, il y a les publicités pour pouvoir s'inscrire.
Est-ce que la formation est payante?
Non, tout est gratuit. C'est vrai que ça, je ne l'ai pas dit, mais en fait, parce que pour nous, c'est évident, mais en fait, tous nos services sont gratuits pour les nouveaux arrivants au CDN.
Si vous souhaitez participer à la conférence dont Sandrine parlait, vous retrouverez toutes les informations sur le Facebook du CDNE, Conseil de développement économique de la Nouvelle-Écosse. Merci à Sandrine pour cette entrevue. C'était Adèle de Oui 98 pour IJL Halifax.